Bienvenue maintenant à la leçon 4 et j'espère que votre expérience déjà avec les trois premières leçons ça a été bénéfique. Ce que nous pouvons déjà remarquer, c'est que ces leçons ne sont peut-être comme aucun autre entraînement d'esprit que nous n'avons jamais fait auparavant. Et nous pouvons, je voudrais bien vous rassurer tout de suite que c'est normal si vous constatez une certaine petite difficulté que vous faites ces leçons pour la première fois ou même pour les expérimentés qui refont le livre d'exercice avec nous ici. Nous pouvons même avec une certaine expérience constater qu'effectivement, si nous le faisons d'une façon profonde, cela peut être un peu dérangeant. Surtout pendant ces premières leçons, cela peut être le cas. Donc, je vous rassure, c'est normal et je vous encourage simplement à persister. C'est passager, cela passe. Il y a un genre de passage, surtout pendant les 26 premières leçons, qui sont particulièrement déroutantes. Avant qu'on arrive à la leçon 27, 28, 29, où ça commence à s'assouplir, à peut-être communiquer des messages un petit peu plus réconfortants qu'on a l'habitude d'entendre. Donc, persistez et soyez rassurés que c'est normal de connaître certaines difficultés. Aussi, ces premières leçons ont eu pour but de nous faire regarder dehors, l'extérieur de nous, et pour nous aider à comprendre que nous ne comprenons pas ce que nous voyons autour de nous. Maintenant, dans les leçons à venir, et Jésus, notre guide dans le livre d'exercice, va nous encourager à tourner notre regard à l'intérieur, où il va nous demander de faire la même chose, en constatant que nous ne comprenons pas non plus ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous, dans nos pensées. Dans la leçon 4, il nous dit de regarder la nature générale de nos pensées, qui va dire ne signifie rien. Dans la leçon 5 et 6, que nous allons aussi essayer de faire dans cette séance complète ce soir, il va nous dire qu'il va nous enseigner sur la nature spécifique de ces pensées qui regardent plus précisément vers la contrariété dans nos pensées. Maintenant, pour parler de la leçon 4 plus spécifiquement, ce que nous pouvons retenir tout de suite dans les premières lignes de cette leçon, c'est qu'il nous encourage à adopter une pratique particulière pour la première fois qu'il ne nous a pas encore demandé de faire dans les trois premières leçons, de regarder nos pensées, d'observer nos pensées, de voir ce qui se passe dans cet espace intérieur. Cette pratique va rester avec nous jusqu'à la fin de notre étude, donc pratique avec un cours en miracle, donc probablement jusqu'à la fin de notre vie, si nous continuons à être des étudiants d'un chemin spirituel. Il n'y a aucun chemin spirituel sans un regard attentif à ce que nous sommes en train de penser. Il nous dit dans cette phrase ici, justement, dans ces périodes d'entraînement, commence par noter les pensées qui te traversent l'esprit. Voilà, il dit durant une minute, mais cette période va augmenter par la suite. Comme tout étudiant ou pratiquant de la méditation le sait bien, c'est une pratique tout à fait simple et extraordinairement efficace de regarder ce qui se passe dans notre esprit pour observer le contenu, puisque c'est à ce moment-là que nous pouvons disposer d'un certain choix d'action, de choix par rapport à ce que nous voyons là. Et donc, cette étape est tellement importante parce que c'est ainsi que nous retournons l'un des outils, l'une des armes de l'ego le plus efficace, le plus primitif aussi, c'est le simple fait de nier ce que nous pensons, ce que nous ressentons. Donc, nous pouvons faire beaucoup avec un esprit qui est capable de regarder à l'intérieur. Et c'est cette première leçon qui nous donne ce premier entraînement. Et donc, j'ai envie de faire avec vous un premier exercice, puisque de conscience, d'observation de notre esprit, puisque cela sera le tremplin pour des questions ou des exercices que je vais vous faire faire par la suite. Donc, si vous voulez bien, gardez les yeux ouverts. Et regardez autour de vous, les yeux ouverts, et juste tranquillement regardez à droite ou à gauche. Et essayez de constater et d'observer le contenu de votre esprit. Simplement être conscient de ce que vous êtes en train, de ce qui se passe dans votre esprit, les pensées ou les ressentis. Simplement en surveillant la pièce autour de vous. Je vous laisse 1 minute pour le faire. Soyez attentifs, nous n'avons peut-être pas l'habitude de faire cela. Quelle est cette pensée qui vient de traverser mon esprit? Très bien. C'est à peu près de cette façon que Jésus voudrait qu'on fasse la leçon. Maintenant, je voudrais qu'on remarque un peu ensemble ce qui pourrait être notre expérience en faisant cet exercice. Vous avez peut-être remarqué qu'il n'y avait pas juste une pensée prédominante, il y avait peut-être plusieurs pensées, il y avait peut-être même beaucoup de pensées. Si vous avez regardé autour de vous d'une façon attentive, l'esprit a normalement l'habitude de remarquer les choses, mais avec une idée en tête de faire remarquer quelque chose à notre esprit. Ah ben tiens, il y a un peu de poussière sur l'étagère là-bas. Ah oui, je vois que j'ai pas réparé le poignet de la porte. Ah, mais qu'est-ce que c'est cette toile d'araignée là-haut? Il va falloir aussi que je fasse quelque chose là. Ah oui, ça sera après, ça sera bientôt le printemps, quand les araignées risquent de revenir en quantité, etc. L'esprit peut vadrouiller très, très facilement comme ça. Le premier constat que nous pouvons faire, c'est que nos pensées changent beaucoup et changent d'une façon très très rapide, surtout si nous parlons avec des amis, si nous écoutons une émission à la radio, si nous lisons le fil des infos sur le téléphone, nous pouvons constater, si nous prêtons attention, la vitesse avec laquelle nos pensées changent. Jésus voudrait dire, en fait, ça c'est Ken Wapnick, notre mentor, voudrait dire, par rapport à l'enseignement de Jésus dans cette leçon, il voudrait qu'on constate que ces pensées ne peuvent pas être nos vraies pensées, parce que la pensée de Dieu ne change pas. La réalité de Dieu ne change pas. La réalité de l'unité ne change pas. La réalité de l'unité de l'amour et de la paix de Dieu ne change pas. C'est des états constants. Tout ce qui change appartient au monde, aux dimensions et la dimension de l'ego. Cela veut dire par la même occasion que puisque nous faisons partie du monde de Dieu, de l'unité parfaite, de son amour, nous sommes dans notre état véritable aussi dans une condition d'inchangeabilité. Nos pensées sont aussi inchangeables. Nos pensées sont inchangeables et sont permanentes. Donc, les pensées que nous sommes en train d'avoir ne sont pas nos véritables pensées. C'est pour ça que Jésus se permet de nous faire dire, ces pensées ne signifient rien, parce qu'elles ne sont pas nos vraies pensées. Nos vraies pensées appartiennent à notre grand soi, ou le Christ en nous, ou notre esprit juste. L'esprit juste est la partie de notre esprit que nous partageons avec l'esprit de Jésus, du Saint-Esprit. C'est là où le Saint-Esprit est présent dans notre esprit. Et l'objectif de Jésus dans ces leçons, c'est de nous aider à nous faire focaliser sur le monde, justement, pour voir toute la spécificité que nous voyons à l'extérieur de nous, pour nous rappeler que derrière tout cela, il y a une pensée unique, il y a un état inchangeable. C'est ainsi que nous allons faire progresser notre vision et faire progresser notre conscience pour pouvoir s'ouvrir à une autre réalité sous-jacente. C'est en regardant dehors et voyant le non-sens ou l'insignifiance de ce que nous voyons, pensée par pensée. C'est un long entraînement parce que pour l'instant, nous accordons encore beaucoup d'importance et de réalité à nos pensées, surtout à ce que nous ressentons. Voilà, c'est le but de la leçon, de leçon 5 et 6, de regarder ce que nos pensées nous font ressentir. Parce que le sujet de ces leçons, c'est la contrariété. Donc, par la suite, nous allons mettre en question, cette leçon nous met en question la signification de nos pensées. Dans les deux prochaines leçons, nous allons mettre en question la signification de nos ressentis, de ce que nos pensées nous font ressentir. Voilà. Maintenant, oui, je vois que j'ai pris déjà de l'avance sur mes notes, ce qui est très bien. Donc, nous sommes notre véritable esprit et autre chose. Donc, les pensées que nous sommes pour la plupart en train d'avoir ne sont pas nos vraies pensées. Il y a là un grand scoop ici. Kenneth, Jésus voudrait qu'on sache que nous ne sommes pas le penseur de ces pensées. C'est l'ego qui est le penseur de ces pensées. Mais maintenant, du fait de nous identifier d'une façon extrêmement intime avec l'ego, la voix de l'ego, nous pensons que ce sont nos pensées et c'est la façon dont nous pensons. Or, nous avons la capacité, nous pouvons observer ces pensées d'une façon tellement précise et aussi détachée, comme un vrai témoin, que nous, il est possible à la fin de voir que non, ce ne sont pas mes pensées, ce sont les pensées. Ce sont des pensées qui traversent mon esprit, qui ne m'appartiennent pas. C'est ainsi que nous allons finir par comprendre et ressentir que nous ne sommes pas le penseur de ces pensées. Et là, à ce moment-là, nous pouvons commencer à vraiment penser qu'on avance. Voilà. Qu'une petite méditation que je vous encourage à faire si vous avez le temps, c'est celle-ci. Ces pensées ne signifient rien parce que mon vrai soi a des pensées complètement différentes. Si vous regardez ceci en replay, vous pouvez peut-être arrêter la vidéo ici et réfléchir à cela, juste 2 minutes, très tranquillement. Ces pensées ne signifient rien parce que mon vrai soi, mon grand soi, avec un S majuscule, a des pensées complètement différentes qui appartiennent à l'esprit de Jésus et du Saint-Esprit. Une autre conclusion que nous pouvons facilement faire en faisant cet simple balayage de nos environs et à regarder notre esprit, et nous pouvons voir l'immense mélange de nos pensées. Nous avons certaines pensées assez positives par rapport au choix des livres qu'on a sur notre étagère, ou on voit une assiette vide sur le comptoir, on dit, bah oui, j'ai bien travaillé ce soir, la cuisine, j'ai fait un bon petit plat à manger. Et après, tout de suite après, il y a une mauvaise petite pensée qui dit, oui, mais tu t'es pas organisé pour laver la vaisselle avant la séance. Maintenant, il va falloir tu le fasses après et tu sais très bien, tu risques de ne pas le faire. Donc, ça sera sur le comptoir encore demain matin. Donc, c'est un vrai mélange de pensées. C'est tout à fait normal. Jésus dit dans une leçon plus tard, très très proche de celle-ci d'ailleurs, la leçon qui s'appelle Mes pensées ne signifient quoi que ce soit. Il dit, tu pourrais imaginer que tu regardes passer une procession bizarrement disparate qui n'a que peu ou pas de signification pour toi. Donc, il nous dit dans une leçon, dans quelques leçons, qu'il est bien conscient et nous devrions aussi être conscients que notre esprit contient un genre de variété de pensées très bizarres. Certaines de ces pensées ne seront pas forcément très agréables et nous risquons d'avoir une certaine réaction à ces pensées. Et ça sera peut-être plus difficile de dire, ah ben tiens, celle-ci ne signifie quoi que ce soit, puisque c'est quand même soit une pensée de jugement très, très fort, ou de blâme très forte, ou de blessure très forte, ça sera plus difficile. Donc, moi, je voudrais d'abord que vous soyez conscient que cela puisse se produire, et deuxièmement, vous donner quand même une idée de ce que vous pouvez faire pour le gérer. Ce qu'il faut certainement pas exclure ou éviter ce genre de pensée, puisque c'est fort, c'est puissant, et vous ne savez pas quoi faire avec. Vous vous sentez peut-être un peu mal à l'aise avec la leçon, puisque vous savez que ce n'est pas une pensée insignifiante pour vous, non, au contraire. Mais ce que vous pouvez faire, donc, c'est de juste constater la difficulté, la résistance, et à savoir que vous donnez encore une importance à l'expérience liée à cette pensée. Aussi, autant que vous pouvez, accepter cette difficulté, cette résistance, le constater, l'observer et accueillir vos difficultés, au lieu de fuir, au lieu de vous juger, autant que possible ne pas nous juger, ne pas tomber dans le jugement pour votre difficulté à appliquer les consignes de Jésus dans cette leçon. Voilà, sans opposition, sans peur, sans jugement, dans une atmosphère d'accueil chaleureux aussi bien que vous pouvez. Et donc, je voudrais aussi vous encourager à faire une petite méditation si vous le sentez bien de le faire en arrêtant le replay à cet instant, si vous constatez une pensée particulièrement désagréable, au lieu de vous demander sur le champ maintenant de penser à une pensée dérangeante ou désagréable, cela peut vous arriver, ou peut-être en arrêtant la vidéo maintenant, peut-être effectivement vous pouvez vous souvenir de quelque chose qui vous est arrivé dans la journée et essayer, si cela vous semble naturel, de mettre les mains sur le cœur ou de faire un autre geste pour essayer de vous, dans une démarche de vous accompagner, dans une démarche de douceur et de tendresse pour vous accompagner, en essayant de vous souvenir des mots de Jésus qui essaie de vous rassurer que quelque part, ces pensées aussi ne signifient rien. Et ce n'est pas grave si je continue, si tu continues encore à penser que ces pensées sont importantes. Essayez. Essayez de prendre soin de vous de cette façon. Voilà, c'est tout ce que nous pouvons dire pour les personnes qui pratiquent cette leçon pour la première fois. C'est tout ce que nous pouvons dire pour l'instant. Maintenant, dans cette séance, je vais continuer à parler aux personnes qui ont plus d'expérience. Ça sera avec plaisir que je vous vois pour la leçon 5 et 6. Maintenant, pour les personnes avancées qui sont plus expérimentées, qui sont ici avec nous ce soir, ce que j'aimerais bien nous encourager à faire, c'est de mettre ensemble avec ces pensées que Jésus nous dit ne signifie pas, ne signifie quoi que ce soit ou rien, c'est de commencer aussi à inclure un peu plus de notre environnement intérieur. Qu'est-ce que nous voyons à l'intérieur de nous? Il n'y a pas que des pensées. Il y a aussi des sentiments, des ressentis, des sensations, différents phénomènes, des émotions. Il y a des souvenirs. Tout cela est changeant. Tout cela est éphémère, même s'il y a des thèmes, des courants, des blessures qui reviennent avec certaines répétitions. Ce que nous voulons faire ici, c'est de suivre notre guide Jésus d'une façon plus profonde et de considérer la possibilité que l'ensemble de notre environnement intérieur, ce qui semble être le moi dans notre pensée, est aussi insignifiant que juste une simple pensée, telle qu'il nous dit de faire l'exercice dans le titre de la leçon. Ouvrons plus large la gamme d'application de cette leçon. Commençons à comprendre que tout ce que nous pensons, que nous ressentons, tout ce qui est présent dans notre champ de conscience ne peut pas être signifiant, ne peut pas être réel, puisque tout cela appartient à notre petit soi. Si ces pensées, émotions sont la dérivent ou viennent de notre pensée séparée, de notre esprit séparé. S'il y a un esprit séparé qui ressent, qui pense ces choses-là, alors ce n'est pas nous. C'est présent dans notre expérience. Nous n'allons pas dire que ça n'existe pas pour nous comme une expérience, mais nous pouvons l'appeler plutôt une expérience. Kenneth, dans son livre Voyage dans un cours miracle, cite cette phrase dans le livre d'exercice d'un cours miracle, cite cette phrase du cours du chapitre 31. Le salut peut être vu comme rien de plus que l'évasion hors des concepts. Il ne se soucie pas du contenu de l'esprit, de ce que nous pensons, le contenu de ce que nous ressentons, oui, mais de la simple affirmation qu'il pense. Le salut ne se soucie pas du contenu de l'esprit, tout ce que nous pensons, mais de la simple constat, la simple affirmation qu'il pense. Ce qui veut dire que le simple fait que nous pensons est un signe que nous sommes toujours dans l'erreur. Et nous, l'invitation est d'observer, de constater cela et de mettre du côté absolument tout ce que nous pensons, tout ce que c'est le contenu de cet esprit ici. Kenneth nous dit que, aussi difficile que c'est de l'imaginer, notre expérience n'est pas juste non plus. Il a dit, et pas pu, et pas juste une fois, nos pensées mentent, nos émotions mentent, nos ressentis mentent, l'expérience ment, comme il nous disait, les yeux dans les yeux. C'était pas les moments les plus confortables, j'avoue. Ce qui, pour lui, c'était une telle évidence. Ce qui veut, bien sûr, il veut nous surprendre, voire choquer un petit peu. Et c'est peut-être exactement ce qu'il faut faire, tellement nous sommes absolument convaincus de la véracité de notre expérience et de la réalité de notre expérience en tant que notre expérience, notre vie. Or, comme vous avez pu constater quand même, le cours et Jésus parlent de notre soi, S majuscule, que nous sommes. Et nous pouvons facilement imaginer que le grand soi dont il parle n'est pas ce petit soi que nous ressentons tous les jours. Il ne nous demande pas de l'abandonner, comme ça, en claquant les doigts, mais il nous demande certainement d'avancer avec ces leçons, les pratiquer, de nous entraîner avec. Et donc, si nous faisons ce livre d'exercice pour une deuxième, troisième, voire quatrième fois, ou si, après 10 ans, nous ouvrons le livre d'exercice à cette leçon, nous pouvons essayer, nous pouvons nous appliquer à la pratiquer d'une façon beaucoup plus large et plus universelle. Donc, c'est ce que je voudrais faire avec vous maintenant dans une petite méditation, parce que je pense que si vous avez si vous prenez le temps de refaire ces leçons et vous le faites d'une façon plus large, plus universelle et plus profonde, vous allez forcément, comme moi, constater les points de résistance. À un moment ou autre, votre esprit, comme le mien, va dire: mais attends, Jésus ne pourrait pas possiblement vouloir que je mette cette expérience-là dans la catégorie de quelque chose de totalement insignifiant. Et c'est ce que j'ai envie de vous demander de faire maintenant avec une petite méditation, c'est d'observer, c'est de trouver quelque chose dans votre expérience qui semble encore résister à cette prise de conscience que cet événement, ce souvenir, cette difficulté appartient également à votre petit soi, qui n'est pas votre grand soi, qui n'est pas votre véritable esprit, et donc est éphémère et à la fin irréel. La seule raison pour laquelle l'expérience de ce petit soi semble avoir encore de la puissance et de la force dans notre esprit, c'est parce que nous accordons cette puissance et cette importance à ce petit soi et ce qu'il a vécu. Pourquoi? Pour continuer à vivre ce petit soi, la vie de ce petit soi, pour ne pas l'abandonner. Si nous abandonnons cette expérience difficile, cela veut dire que je pourrais abandonner l'importance de toutes mes expériences difficiles. Mais qui serais-je à ce moment-là? Qui est le moi, la personne qui porte ce nom? si je dis qu'absolument toutes les expériences que j'ai eues appartiennent uniquement à un genre de soi illusoire. Qui suis-je moi à ce moment-là? Donc j'ai envie de vous inviter, juste, ça sera une courte méditation que vous pouvez prolonger, soit après cette séance si vous êtes ici ce soir, ou soit tranquillement si vous regardez ceci en replay. Donc je vous invite à juste fermer les yeux et commencer à ressentir ce lieu de silence en vous. L'endroit où vous avez l'habitude d'aller dans vos méditations ou dans vos prières quand vous fermez les yeux. Et doucement et sans intensité. Doucement et sans intensité. Essayez d'évoquer une situation ou un souvenir pour vous qui pourrait résister à cette idée de Jésus, qui voudrait nous dire ceci aussi est insignifiant. Vous avez probablement une situation ou deux, voire plusieurs situations qui voudraient résister à cette idée et qui ne voudraient pas être classifiées simplement comme insignifiant, comme tout le reste, comme si ça n'avait plus d'importance dans votre existence et dans votre parcours. Vous pouvez peut-être commencer à ressentir la gêne de cette situation. Maintenant, je vous encourage à commencer à observer les pensées, ces émotions d'une certaine distance, une toute petite distance, comme si vous êtes l'observateur de celui qui pense et qui ressent ces choses. Essayez de trouver une façon de faire cet exercice qui est confortable, où vous voyez encore la situation dérangeante, mais vous avez plutôt l'impression que cela appartient à un autre esprit juste devant vous, qui pense et qui ressent de cette façon. Et maintenant, pensons que ceci est notre petit soi. Et nous sommes aussi ici, assis tranquillement à côté de notre grand soi. Si nous pouvons regarder l'activité de l'esprit qui pense et qui ressent, alors nous ne pouvons pas l'être en même temps que de l'observer. Nous sommes aussi l'esprit observateur, l'esprit témoin, tranquillement assis à côté de notre grand soi, également à côté de Jésus, qui nous accompagne dans cette méditation. Nous pouvons trouver cela plus confortable que d'être dans le petit soi, en train de ressentir ses souvenirs d'une façon précise. Nous pouvons retourner à cet endroit d'observation autant de fois que nous voulons, quand nous le voulons, sachant et souvenons-nous que notre réalité est toujours celle de cet observateur, tranquillement assis à côté de notre grand soi et de Jésus. C'est ce petit soi qui interprète la vie d'une certaine façon, qui met souvent l'accent sur la vulnérabilité et sur les injustices, sur les manques. Notre grand soi ne ressent pas ces choses. Et il nous aidera à chaque occasion de trouver une certaine distance, un certain confort et une certaine paix intérieure avec l'expérience de notre petit soi. Très bien. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à porter votre conscience à nouveau à l'extérieur et à revenir à la séance. C'est la fin de cette leçon 4. Tournons-nous maintenant vers les leçons 5 et 6. Donc, bienvenue aux leçons 5 et 6. Êtes-vous prêts pour une grande surprise? Je vous lis les titres de ces deux leçons. Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Je suis contrarié parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. La leçon 5 est probablement, avec le 34, la leçon la plus citée de Kenneth Wapnick et qui pourrait changer tout entièrement notre expérience. Mais tout d'abord, qu'en pensons-nous vraiment en lisant le titre de cette leçon 5, Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense? Soyons honnêtes, ne tombons pas juste dans l'automatisme de donner des raisons à Jésus. Il ne voudrait pas qu'on devienne des robots et soudain on dit à tout le monde, bah oui, je ne suis pas contrarié, je ne suis jamais contrarié, etc. Mais non, on va avoir une certaine difficulté à vraiment intégrer cette leçon. Il n'y a rien de plus normal que de penser qu'on sait pourquoi on est contrarié. On est contrarié parce qu'on a vu quelque chose et parce que cela nous a dérangé. Donc, presque, on a envie de dire, ne me demande pas pourquoi je suis contrarié, de me remettre cela en question, je sais très bien pourquoi je le suis. Nous savons pourquoi nous ne sommes pas heureux. Nous trouvons toujours une raison extérieure dans nos circonstances, conditions, situations pour expliquer pourquoi nous ne sommes pas heureux, nous sommes contrariés. Mais imaginons un instant que Jésus ait la raison, que nous nous trompons. Et qu'il y a une autre raison pour laquelle nous sommes contrariés. Ça serait quand même excellent, puisque très, très, très souvent, quand nous disons que nous sommes contrariés, c'est par rapport à quelque chose que nous ne pouvons pas changer. Donc, automatiquement, notre contrariété nous met en position de victime, mais presque un prisonnier en même temps, prisonnier d'une circonstance que nous ne pouvons pas changer. Et puisque notre dérangement vient de l'extérieur, un extérieur que nous ne pouvons pas changer, on se dit, bah, je vais rester contrarié. Et si tout cela était faux, ça serait fantastique. On pourrait peut-être enfin connaître la véritable raison pour laquelle nous sommes contrariés. Et peut-être que cette raison va nous mener vers une autre dimension ou domaine où nous aurions plus de marge de manœuvre. Première astuce pour cette leçon, surtout pour ceux qui le font pour la première fois, n'appliquez pas cette leçon, s'il vous plaît, aux grandes tragédies et contrariétés et drames de la vie. Essayez surtout avec les toutes petites et les plus petites drames et catastrophes de la vie, telles qu'une assiette préférée ou un bol ou un mug préféré que vous venez de casser, ou de l'écran de votre téléphone que vous risquez que vous venez de casser aussi. Ou d'un vêtement que vous avez pas mis dans la machine à laver de la bonne façon, c'est rétréci, ça teinte les couleurs. Essayons avec les plus petites contrariétés de la vie qui sont beaucoup plus parlantes pour nous et on va faire beaucoup plus de progrès avec cela qu'en cherchant à se pousser à transformer notre expérience des grandes contrariétés. Donc ça, c'est le premier astuce. Deuxième astuce, si vous êtes confronté à une certaine difficulté qui semble résister à cette leçon, essayez cet exercice de faire l'exercice de l'exercice que j'appelle en amont. Essayez de réfléchir à votre état d'esprit au moment que l'effet s'est produit. Est-ce que vous étiez dans un profond, profond sentiment de paix de Dieu, de l'unité de votre esprit avec celui de Jésus, du Saint-Esprit et de Dieu, à pouvoir faire abstraction de toutes les conditions ici du fait de savoir que votre réalité était intimement liée à la leur. Si vous n'étiez pas dans cette condition parfaite, il se peut que vous étiez déjà dans une certaine contrariété ou sentiment de susceptibilité ou de vulnérabilité. Puis l'événement s'est produit, puis vous avez eu votre réaction. Ce n'est certainement pas pour se culpabiliser. Si on commence à se rendre compte que, ben oui, peut-être ma réaction n'était pas en adéquation avec ce qui s'est produit, ça c'est aussi un autre exercice très intéressant de voir quand des moments où notre réaction n'est pas proportionnée par rapport à la cause du dérangement. Ouais. Est-ce que souvent notre réaction est plus importante que ce qui est vraiment justifié par la situation? Toutes ces petites choses-là, ces petites astuces, peuvent nous aider à faire du progrès avec cette leçon qui pourrait sinon être particulièrement difficile et dérangeante. Maintenant, posons-nous ces questions. Comment est-ce possible que Jésus parle de cette façon ou présente cette leçon? Qu'est-ce qui est derrière? S'il dit que tu n'es pas contrarié pour la raison à laquelle tu penses, il doit avoir quelque chose en tête. Et ce qu'il a en tête est la véritable raison pour laquelle nous sommes dérangés. Ce qui revient au sujet de la séparation, à ce drame métaphysique, cosmique qu'on appelle la séparation. Si vous ne connaissez pas encore ce sujet, je vous encourage à aller sur notre chaîne YouTube Bernard Groom et mettre dans la petite loupe sur notre chaîne, pas le moteur de recherche de YouTube, mais sur notre chaîne Séparation, et vous allez voir faire paraître toute une liste de vidéos au sujet de la séparation. La séparation, nulle autre que la pensée que nous avons pu nous séparer de l'amour et de la présence et de l'unité du Dieu de telle façon à de nous exclure entièrement maintenant de son amour, sans le moindre recours possible pour revenir à notre demeure au ciel, dans l'unité parfaite de Dieu. Mais en plus, en plus de cette douleur de séparation, d'exil, d'abandon, nous avons intégré cet acte de séparation comme un crime contre l'unité, un crime qui nous a laissé avec une immense charge de culpabilité, comme si ce que nous avons fait est un crime d'une extrême gravité. Il n'y a rien de plus grave que le fait de penser que nous avons détruit l'intégralité de l'amour parfait qui n'avait qu'une mission, qu'une but dans l'existence qui était de nous aimer. Donc cela provoquait une profonde, profonde rupture. Et c'est pour ça que Jésus dit, tu n'es jamais contrarié pour la raison à laquelle tu penses, tu es contrarié par une pensée de séparation. Leçon 6, je te suis contrarié parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Très, très important. Qu'est-ce qui n'est pas là? La séparation n'est pas là. Mon premier leçon 5, tu penses que la séparation est réelle, Et c'est ce qui te dérange profondément. Leçon tout de suite après. Mais en fait, tu ne peux pas être dérangé par cela non plus puisque ce n'est pas réel. Je suis contrarié parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Bien sûr, il ne dit pas tout cela dans cette leçon. C'est ce qui va venir par la suite, surtout dans les leçons 79 et 80. Je vous recommande de les lire pour les étudiants expérimentés. Très bien, qu'est-ce qu'on est censé faire? Nous pratiquons tout d'abord avec nos contrariétés spécifiques, comme je vous ai dit tout à l'heure. Encore et encore, nous regardons l'assiette cassée, le portail de la voiture, portière de la voiture qui est esquintée. Peut-être nous l'avons fait nous-mêmes, peut-être un chien a sauté pour nous dire bonjour, a griffé la peinture de la voiture. Avec la répétition, si nous répétons cette idée, nous allons voir et ressentir qu'il y a un fond en nous qui était déjà dérangé et qui, à chaque fois que nous sommes dérangés, a posé, transposé ou projeté ce dérangement sur la situation d'une façon ou d'une autre. C'est ça que nous sommes en train de vivre. Donc, Kenneth, Jésus voudrait qu'on aille de la situation spécifique à la généralité de la cause à l'intérieur, du spécifique au général, de la forme, la situation spécifique à l'intérieur, de la pensée générale à l'intérieur de notre dérangement profond qui était déjà et qui est toujours là. C'est un processus de guérison dans nos cours qui est extrêmement puissant. On prend nos perceptions telles qu'elles sont, on prend nos expériences telles qu'elles sont, on ne les nie pas, certainement pas. On ne veut pas, Kenneth nous disait, Jésus ne veut pas des étudiants qui disent, oh, je ne vois que l'amour de Dieu. S'il vous plaît, il nous disait, ne me faites pas ça. Non, il voudrait des étudiants qui disent, je vois que des imbéciles partout et qui font un travail honnête et sincère avec cela. Donc, permettez-vous d'être dérangé et d'être contrarié et pratiquez ces leçons pour aller de la forme spécifique. Ah oui, il y a ça, il y a les enfants dans la rue qui hurlent toute la journée. Ah, il y a le propriétaire de mon appartement qui refuse de venir, qui ne répond pas à mes appels et qui refuse de changer le joint de mon robinet. Il y a la personne aux impôts, la personne au magasin de téléphone qui ne répond pas ou qui ne me donne pas les réponses qu'il me faut. Faites cet exercice et on va voir qu'il y a un fond chez nous qui est quasiment en permanence dérangé. Ce fond, nous, qui est en permanence dérangé, c'est l'ego avec lequel nous sommes un peu trop identifiés. L'amour de Dieu est toujours en nous. Si nous arrivons à soupçonner l'existence de cet amour profond, cette paix profonde en nous, nous trouverons la vie infiniment plus facile. Infiniment plus facile. Toutes ces petites difficultés, les contrariétés vont baisser en intensité. Très bien. Certaines contrariétés risquent de résister à cette pratique. Voilà, c'est ça le prochain sujet que je voulais dont je voulais parler avec vous. Parce que Jésus dit dans cet exercice, il n'y a pas de petite contrariété. Et pourtant, si on nous pose la question, je pense qu'on pourrait trouver les petites contrariétés par rapport aux grandes contrariétés. Et je voudrais juste vous donner le moyen dans cette petite exercice de faire la paix avec ça. Ça serait important de savoir la différence entre quand votre esprit est ouvert à une certaine est disponible à pratiquer cet exercice et quand il ne l'est pas. Donc, je vous invite à essayer de réfléchir effectivement à une genre de contrariété qui pourrait résister à cet exercice. Vous pouvez le faire là tranquillement maintenant, juste pendant cette séance. Et comme pour la leçon précédente, je vous invite à regarder cela avec la plus grande tendresse et douceur et de vous accompagner avec le même amour et tendresse que Jésus vous accompagne en regardant ceci, en acceptant cette difficulté, mais en évitant de vous donner raison, en évitant de justifier vos difficultés, en disant oui mais. C'est les huit mais qui vont nous empêcher à avancer avec cette leçon. Donc, si vous entendez un oui mais, non mais attends, tu peux pas me demander de faire cet exercice, cette contrariété. Je suis pas contrarié pour la raison à laquelle je pense. Je sais très bien pourquoi je suis contrarié dans cette situation. Et tu peux pas me dire que c'est insignifiant non plus, s'il te plaît. Donc, constatez cela, mais au lieu de vous donner raison, au lieu d'essayer de justifier l'intensité de l'importance de ce qui vous est arrivé, et je sais très bien qu'il arrive des choses absolument tragiques dans ce monde, essayez juste de garder cette expérience de côté et d'accepter la possibilité de vous laisser accompagner quelque part pour que vous puissiez avoir cette expérience, mais ne pas forcément avoir entièrement raison. Il se passe autre chose en même temps. Voilà, c'est mon invitation. Donc, je pense que c'est tout ce qui est essentiel à dire pour cette leçon maintenant, pour les personnes qui travaillent cette leçon pour la première fois. Donc, merci beaucoup, au plaisir de vous voir pour la prochaine leçon. Maintenant, pour ceux qui sont des étudiants plus expérimentés, qui font ceci peut-être pour la deuxième fois. Vous pouvez imaginer ce que je vais vous inviter à faire maintenant. Oui, c'est une application de cette leçon d'une façon un petit peu plus profonde, mais aussi autre chose avec un petit changement dans cette leçon. Tout d'abord, selon le cours, nous sommes toujours contrariés. Donc, est-ce que nous pouvons avancer, avoir une certaine expérience avec le cours, avec un chemin spirituel et atteindre un certain niveau de tranquillité, surtout si tous nos besoins sont satisfaits. Plus difficile quand nos besoins matériels ne sont pas satisfaits. Mais selon le cours, si la paix de Dieu n'est pas entièrement présente dans notre esprit à chaque instant, on pourrait considérer que nous sommes contrariés. Pour le cours, l'absence dans le cours, l'absence de la paix de Dieu est un grand état de contrariété. Donc voilà, je voudrais vous ouvrir l'esprit à la possibilité que vous êtes probablement plus du côté de la contrariété, beaucoup plus souvent que vous le pensez, ce qui n'est pas un problème, ce qui veut simplement dire qu'il y a une énorme possibilité de développement de la paix et de l'amour de Dieu dans votre esprit, ce qui est magnifique. Maintenant, appliquons cette leçon effectivement d'une façon plus large et plus profonde. Je voudrais vous provoquer un petit peu pour trouver les zones dans votre vie où vous avez l'impression que vous allez résister à ce que Jésus dit ici. Et voudrais qu'on sache qu'on peut guérir toute blessure dans cette leçon, toute contrariété. Qui dit contrariété dit blessure par la même occasion à un certain niveau. Je voudrais que vous regardiez ceci vraiment d'une façon honnête dans votre vie. Est-ce que pensez à peut-être les trois événements les plus marquants dans votre vie, et je ne dis pas positivement, peut-être les trois événements qui vous ont plus marqué négativement, qui vous ont le plus blessé ou impacté, ou qui vous ont fait reculer. Quelle est votre réaction? Et vous pouvez mettre ça dans le fil de chat si vous souhaitez. Quelle est votre réaction quand je vous dis, sur une échelle de 1 à 10, c'est-à-dire 1 tranquille, ça ne me dérange pas. 10, non, ça me fait vraiment réagir. 8, 9, 10, je n'arrive pas à voir. Voilà ce que Jésus veut dire ici. En pensant à cette situation ou cet événement qui vous a vraiment chamboulé, ou qui a chamboulé d'autres personnes. Quand je vous dis, vous n'êtes pas contrarié dans cette situation pour la raison à laquelle vous pensez. Vous êtes en train de regarder quelque chose qui n'est pas là. Quelle est votre réaction? Pensons aux choses vraiment qui peuvent être un peu compliquées. Si ce n'est pas spécialement compliqué pour vous, pensez peut-être à d'autres personnes. Je vais insister un peu plus sur cela dans quelques instants. En pensant aux choses qui étaient vraiment particulièrement compliquées pour vous, quand Jésus dit, là, dans cette situation, mon ami, tu n'étais pas contrarié vraiment pour la raison à laquelle tu pensais. Tu étais contrarié et en fait, c'était parce que tu voyais quelque chose qui n'était pas là. Est-ce que vous êtes vraiment capable de voir que ce n'était pas là? Qu'est-ce que cela vous fait de vraiment réfléchir à cette façon complètement radicale de Jésus? Quand il parle, il est en train de parler ici, bien sûr, des réactions, de la façon de penser de notre petit soi, notre grand soi, qui est au-delà du champ de bataille de ce monde, vit toutes ces situations d'une façon différente, mais nous n'y sommes probablement pas encore. Si vous êtes ici avec moi ce soir, si vous écoutez ceci, c'est probablement parce que vous n'êtes pas encore totalement, intégralement dans votre grand soi. Donc, il se peut bien que vous avez encore un souvenir d'une situation difficile. Donc, j'ai quelques timides réponses ici ce soir, pas beaucoup de réponses. J'ai un 4, un 7, un 8 et un 8. Une personne qui dit c'est radical mais consolant. Ça peut effectivement être consolant de savoir qu'il y a une autre raison pour laquelle nous étions ou nous sommes contrariés. Maintenant, je vous préviens que cet exercice va prendre une dimension complètement différente quand nous essayons de l'appliquer à la vie d'autres personnes. Mais ça, c'est juste en préparation pour le prochain exercice. Une personne qui dit un 7, je ressens de l'amertume, puis entendre que je ne suis pas reconnu dans cette contrariété, cela me fait naître une certaine colère. Je dirais que ça, c'est une remarque particulièrement honnête, c'est le genre de choses que nous devrions tous ressentir dans un premier temps. Parce qu'il n'y a rien que l'ego déteste plus. Et nous sommes tous l'ego. Si nous sommes tous identifiés avec la personne que nous voyons dans le miroir, si vous êtes toujours identifié avec cette personne-là, si vous êtes identifié avec votre nom, avec votre personne présenté dans votre passeport, alors ça serait extrêmement difficile de ne pas être dérangé par cette idée d'entendre et de comprendre, ou d'entendre que vous n'êtes pas contrarié pour la raison, vous n'êtes pas contrarié à cause de ce que cette personne vous a fait. Quand je l'ai dit comme ça, parce que ça frappe un peu plus, c'est ce que Jésus est en train de dire ici. Je sais ce que ça provoque chez moi. Parce que tout mon système à l'intérieur semble savoir automatiquement, être saisi par telle ou telle situation où je pourrais identifier tellement clairement ce qui m'a dérangé dans ce qu'une autre personne m'a fait, n'a pas, ou a dû faire, qu'il n'a pas fait, ou a dû me défendre, ou m'a attaqué, ou voilà. Comme me dit Bernard, tu n'es pas dérangé à cause de ce que cette personne t'a fait. Et je vous retourne la même idée, la même phrase. Je vous invite à réfléchir à cela. Donc, maintenant, pour avancer, parce que je vois que par rapport à la semaine dernière, vous êtes très timide, mais ce n'est pas grave. Une personne qui répond, ce que je trouve délicat est de ne pas laisser l'ego récupérer tout cela pour du bypassing. Merci, c'est exactement ça. Pour refus de ressentir pour ne pas en faire une spiritualisation forcée et déracinée. Comment éviter cela? Pas en l'observant. En étant plus près de votre véritable expérience, le but ici n'est pas de produire des robots spirituels, mais de faire un sincère, vrai travail profond pour apprendre qu'il y a autre chose en nous. Il y a autre chose en nous. Il n'y a pas que le petit soi. Et le petit soi sera systématiquement enraciné dans les événements dans ce monde pour vivre dans ce monde. Il ne veut pas savoir. Il ne vit pas dans ce monde, il vit dans un espace abstrait de grand soi, de Jésus, Saint-Esprit, de je ne sais pas qui. Il ne veut pas savoir ça. L'ego veut savoir qu'il est un individu dans un corps très spécifique, avec un âge défini, avec une adresse, une adresse IPN, tout ce qu'on veut. Il veut exister ici. Donc il ne faut pas sous-estimer l'immense résistance à faire ce genre de leçon, puisque cette leçon coupe à travers tout cela pour dire, si tu es contrarié par quoi que ce soit, c'est uniquement parce que tu t'es identifié avec ton ego. Et donc, comme cette personne dit, il faut en être conscient qu'on ne peut pas éviter cela. On peut simplement l'observer et l'accueillir, comme j'ai essayé de dire. Une personne sous le choc, 10, puis me rappelant que je me suis encore fait prendre dans l'erreur, ça descend peu à peu vers le 5. Très bien. Je voudrais vous rassurer tout de suite combien c'est totalement normal, viscéralement normal, d'avoir une réaction de 10, tellement nous nous sommes identifiés avec les grands événements de nos vies. Nos égos se sont servis de ces événements pour nous enraciner dans nos petits soi. Nous avons tous ce genre d'événement. Maintenant, j'avais envie de vous poser une question presque plus difficile, c'est-à-dire d'appliquer cette leçon par rapport à personne que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler, dont la souffrance a été peut-être extrême. Je trouve cette application de la leçon encore plus difficile, sincèrement. Cette personne n'est pas contrariée pour la raison à laquelle elle pense. Cette personne n'est pas triste pour la raison à laquelle elle pense. Elle n'est pas en colère, frustrée, déchirée, en douleur pour la raison à laquelle elle pense. Cette personne n'est pas déprimée ou jalouse ou blessée pour la raison à laquelle elle pense. Donc, vous pouvez aussi constater vos difficultés en entendant ces mots, en essayant de faire un vrai travail sincère pour connaître votre ego, votre petit soi. Oui. Souvenons-nous à chaque instant que nous nous sentons blessés, déchirés, dessus, en deuil, manquants, en perte. Il y a à côté de nous une splendide, une magnifique présence de douceur et d'amour qui est notre soi, notre grand soi, qui est la présence de Jésus et du Saint-Esprit. Si cela vous arrive de vous souvenir d'un événement très, très dur, très difficile, et de vouloir avancer avec cela, je vous encourage à ouvrir le livre d'exercice pour les étudiants expérimentés après la leçon 221 et à trouver l'une de ces magnifiques méditations qui pourrait vous soulager, qui pourrait vous aider. Justement, j'en ai trouvé une que je voudrais vous lire pour finir la séance ce soir, puisque nous sommes déjà bien à l'heure. Ce que je voudrais nous rappeler ici, c'est la réalité de notre grand soi, ce que le cours appelle le Christ ou le grand soi. Je vais vous lire un petit passage de la section Qu'est-ce que le Christ? Et après une méditation, la méditation 255, je choisis de passer ce jour dans le pays parfait en pensant à nos contrariétés et blessures et en pensant aux contrariétés et blessures d'autres personnes. Donc, si vous voulez bien m'accompagner dans cette méditation, je voudrais bien vous lire ces passages. Et ça nous emmène à la fin de la séance. Je vous invite à fermer les yeux si vous souhaitez avoir une expérience de plus profonde et plus silencieuse de cette lecture. Qu'est-ce que le Christ? Demeure du Saint-Esprit et chez lui, en Dieu seul, le Christ reste en paix dans le ciel de ton Esprit Saint. C'est la seule partie de toi qui est une réalité en vérité. Le reste est des rêves. Or, ces rêves seront donnés au Christ pour s'effacer devant sa gloire et te révéler enfin ton saint soi, le Christ. Je choisis de passer ce jour dans la paix parfaite. Il ne me semble pas que je puisse choisir de n'avoir que la paix aujourd'hui. Et pourtant, mon Dieu m'assure que son Fils est paré à lui-même, que j'ai foi aujourd'hui en celui qui dit que je suis le Fils de Dieu. Et que la paix que je choisis pour mienne aujourd'hui porte témoignage de la vérité de ce qu'il dit. Le Fils de Dieu ne peut avoir aucun souci et doit rester à jamais dans la paix du ciel. En son nom, je consacre cette journée à trouver ce que mon Père veut pour moi, à l'accepter pour mien et à le donner à tous les fils de mon Père comme à moi-même. Eh bien, si vous avez envie de rester dans cette méditation, je vous invite à baisser le son sur votre appareil. Si vous avez envie de continuer la séance avec nous, je vous invite à ouvrir les yeux pour une séance de questions-réponses. Merci beaucoup. Si vous devez nous quitter maintenant, au plaisir de vous voir la semaine prochaine si vous le pouvez. Un petit mot sur notre fonctionnement ici. Peut-être vous êtes déjà bien au courant, mais l'organisation de nos enseignements dans notre école virtuelle ici se fait par le biais des contributions au lieu d'imposer un tarif fixe avec abonnement qui sera restrictif pour tout le monde. Nous préférons donner nos enseignements aussi longtemps que possible, autant que possible, sur la base des contributions. Mais sachant que nous avons besoin effectivement des contributions, nous ne pouvons pas faire ce travail totalement librement et gratuitement. Donc, quand nous les offrons sur cette base, nous avons besoin de votre aide. Et c'est un appel très sincère. Si vous êtes en mesure de faire une contribution pour ces enseignements, nous vous invitons à aller sur notre site bernardgroom.com ou regarder ici dans le descriptif de cette vidéo en cliquant sur le bouton plus ici, quelque part en bas de votre écran, où vous trouverez le lien qui va vous emmener vers notre page pour faire une contribution. Merci d'avance. Vous êtes la raison pour laquelle nous pouvons continuer ces enseignements. Merci d'avance. Très bien, maintenant je peux vous permettre d'ouvrir vos micros. Et en fait, j'ai vu très peu d'activité sur le fil de chat ce soir. Donc, j'essaie de rattraper quelques petits commentaires que je n'ai pas vus tout à l'heure, mais il y en a très peu. Merci pour les autres commentaires ici. Le wiki dit, c'est presque provocant tant cela remet en cause tout notre système du monde illusoire. Absolument. Si on y pense vraiment profondément en élargissant le champ d'application de cette idée, presque ça fait tomber toutes les plus grandes certitudes de ce monde comme un château de cartes. Si le contrariété n'a jamais été ce que nous pensions, on ne comprend plus presque l'histoire. Merci aussi à ces personnes qui sont venues pour la première fois. Je n'ai pas eu l'occasion de vous remercier, de vous accueillir et de vous remercier au début de cette séance. Merci beaucoup d'être venu. Je tiens normalement au début de la séance à accueillir ces personnes. Donc, merci beaucoup d'être venu. Ah, je vois Catherine, que tu as ouvert ton micro.
Oui, j'ai ouvert mon micro. Bonsoir Bernard.
Bonsoir Catherine.
Oui, c'est cette leçon-là, nous ne sommes jamais contrariés pour la raison à laquelle nous pensons. C'est vrai que ça fait presque 2 ans que j'ai l'impression de l'appliquer dans les situations, voilà, les situations difficiles. Et je dois dire que c'est vrai que ça marche vraiment très très bien pour retrouver la paix d'esprit. Mais tout à coup, ben voilà, c'est comme si on revient dans l'inconscience ou dans les automatismes. Et puis je pars dans mon histoire d'être contrariée. Et là, ce qui m'a bien interpellée ce soir, c'est que, bah, comme tu l'as aussi bien remarqué, j'ai quand même beaucoup joué la petite fille sage et gentille, pleine d'amour, qui n'est pas contrariée parce que, en fait, je comprends les choses mieux que les autres, etc., etc. Et là, bah, ces dernières semaines, j'ai ressenti des colères, énorme. Bah, c'était juste, voilà, défendre mon territoire, défendre mon espace, dire ben non, ça je supporte pas, ça je veux pas, ça je dois dire non. Et alors maintenant, je vois bien qu'il y a un état de paix dans lequel on peut arriver à dire non sans être pris dans l'émotion, où on peut arriver à, enfin, en fait, que de ne pas être contrarié pour la raison, enfin, ça ne veut pas dire juste dire oui à tout. Enfin, voilà, je crois que tu es d'accord avec moi.
Déjà, oui, se dire à l'intérieur quand quelqu'un nous fait une vacherie, je ne suis pas contrarié à cause de ce que cette personne vient de faire, ne veut pas dire qu'on les laisse faire.
C'est ça.
Non, c'est pas d'être un tapis. C'est pas c'est parce que les autres sont bien dans leur ego. Ce n'est pas un service non plus à juste laisser faire l'ego des autres. Donc, pour eux et pour nous, on les contraint, on dit quelque chose, on met les limites, on met les barrières, on gère la situation. Comme si on avait un bon ego qui voulait attaquer cette personne, mais on ne l'attaque pas. On fait ce qu'il faut faire pour brider, limiter les actions de l'autre personne, pour protéger ses affaires, c'est bien, comme on doit faire. Mais on le fait sans rancœur, sans critique, sans jugement. On comprend pourquoi l'autre personne fait ce qu'elle fait. Parce que l'autre personne est contrariée, profondément contrariée par la séparation. La personne pense que la seule façon de se sentir mieux dans son petit soi, c'est de nous attaquer, c'est de prendre nos affaires, de piétiner sur notre vie ou de rabaisser. Donc on comprend, mais on ne laisse pas faire. Mais notre façon de limiter ou brider l'autre ne va pas passer par une attaque personnelle comme avant. Kenneth nous disait qu'il est même possible de lever la voix, puisque des fois, c'est vrai, il faut le dire. Des fois, totalement impossible de briser la carapace de quelqu'un si tu ne lèves pas la voix. Voilà. Mais il y a même une façon de lever la voix sans colère. Ouais. Les enfants, des fois, si tu ne leur parles pas avec une voix forte, ils ne t'écoutent pas. Mais on peut aussi faire sans que ça soit des cris, sans que ça soit des injures. Ouais. C'est pareil pour les adultes. Kenneth, il aimait bien raconter cette histoire où il était directeur d'un centre pour les adolescents en difficulté. Et il y avait un adolescent qui était en difficulté, devenait violent. Et Kenneth, il était assez grand et assez athlète physique à l'époque. Il a dû se jeter sur lui pour le contraindre, pour le maintenir. Contrainte. Il a dit, c'est la même chose, mais tu fais comme un expert, comme quelqu'un qui sait ce que c'est le vrai problème de l'autre. Comme, presque comme un psychiatre ou un médecin. Comme quand une patiente dans un hôpital attaque et agresse verbalement un psychiatre, il ne le prend pas personnellement, il ne pourrait pas faire son travail. Il sait d'où ça vient, la personne est malade, n'est pas bien. Et donc c'est à nous de faire en sachant que toutes les personnes autour de nous, selon nos cours, sont malades, nous aussi. On souffre tous de la même maladie, de la maladie de la séparation, de la maladie d'une fausse identification, la maladie du petit soi, la maladie de l'ego. Et tout le monde est en train de compenser, tout le monde est en train d'agresser, d'insulter, d'être contrariété, mais pas pour la raison à laquelle il ou elle pense. On parle du même sujet, Catherine? Oui,
Oui,
je suis
c'est
toujours le bon.
exactement ça, c'est ça. Ouais.
Ah,
Et
super.
voilà. Et du coup, c'est vrai que je vois que les quelques fois où j'arrive à appliquer cette leçon avant de réagir ou avant de parler à la personne qui a exagéré, eh bien, en moi, c'est beaucoup plus paisible. Ma voix, elle est plus posée. Et puis, alors, je veux dire, ça marche mieux. Le but, c'est pas d'avoir forcément un meilleur résultat sur l'autre. Le but, c'est de rester en paix, de rester calme. Mais c'est plus, oui, en fait, c'est plus fluide. En fait, quelque chose, les choses, la personne, elle reprend un peu sur elle. Donc, ah, et puis après, elle a une possibilité de se retourner, parce que si j'ai répondu en l'attaquant, ben ça va continuer la guerre, hein?
Ah oui, ouais.
Ouais.
Ça on sait, mais et même des fois, il faut le dire, on sait qu'on va dire le mot qu'il faut éviter de dire, qu'il faut pas dire. Et on sait qu'on va tomber dans le piège. Et bon, en tant qu'étudiant du cours, on va pas se juger, on va dire, ok, très bien, ben, je suis tombé dans le piège, le panneau, je vais essayer de récupérer la situation près, mais bon, on se pardonne, on comprend, c'est un long chemin. On ne se juge pas, on sait toujours pourquoi j'avais trop peur de ne pas être blessé. J'avais trop peur du calme, de laisser cette personne faire. Je n'avais pas envie de ne pas marteler le mal que cette personne m'a fait. Je voulais pas laisser la personne échapper.
Oui, c'est ça.
Oui, bah, ok, on est comme ça. Et comme si c'est la seule façon dont la personne va apprendre. Et au moins, on voit, on ne se donne pas raison. On voit le jeu qu'on joue, ça ne nous fait pas plaisir, ça fait certainement pas plaisir à l'autre personne, ça va pas nous avancer, ça va pas les avancer, mais on le sait après, on le voit après. Donc on se pardonne, on se repardonne, et voilà, et on avance. Et petit à petit, on fait du progrès et on réagit mieux, on réagit plus doucement une prochaine fois.
Merci beaucoup.
Merci, merci à toi Catherine, c'est une très bonne remarque. Monique qui dit, cela serait alors la raison pour laquelle on peut apprendre à aimer nos ennemis. Absolument Monique. Nos ennemis, c'est un peu comme, je pense que c'est le Dalai Lama qui parle des Chinois. Vous savez très bien que le Dalai Lama représente le peuple tibétain. Le Tibet qui a été totalement envahi, agressé, envahi et intégré dans la Chine aujourd'hui. Donc, et son peuple, il y a un genre de génocide qu'ils ont mené, les Chinois, contre le peuple tibétain depuis si longtemps maintenant, depuis les années 50, je crois, 40, fin des années 40. Et que le Dalai Lama, qui est une voix de paix, mais une paix véritable, une véritable paix. Il appelle les Chinois mon frère l'ennemi, ou l'ennemi mon frère. C'est effectivement ça, c'est-à-dire à un certain niveau, on reconnaît quand quelqu'un nous reconnaît en tant que l'ennemi. Dans le langage, on va dire c'est mon ennemi, mais au cœur, on sait que l'autre est juste en train de jouer son rôle sur Terre ici, dans l'illusion maintenant. C'est juste le rôle, il ne peut pas s'empêcher de jouer. Donc, il se donne le rôle de mon ennemi. Je dois me positionner par rapport à cela. S'il veut m'appeler l'ennemi, d'accord, il va m'appeler son ennemi. Moi, je ne vais pas forcément l'appeler l'ennemi, mais si je suis obligé de faire pour que ça soit clair au niveau des relations autour de moi, relations internationales, je vais l'appeler l'ennemi. Mais moi, je peux savoir à un autre niveau que nous sommes venus ensemble dans cette vie avec ce scénario, avec ce script, avec ce rôle à jouer, un rôle que nous ne sommes pas obligés de jouer. Et j'essaie d'évoluer dans le rôle que moi j'ai choisi en tant que le protagoniste. Et l'autre, il veut évoluer ou il ne veut pas évoluer. Je ne peux pas l'obliger d'évoluer. Mais moi, je peux voir que sa véritable difficulté est à cause de la séparation qui fait les ravages dans son esprit. Et il pense que la seule façon de se faire du bien, personnellement et pour son pays, est de m'attaquer ou attaquer mon peuple. C'est la seule façon. Ouais. Il ne voit pas une autre possibilité. Sinon, il le ferait peut-être. Moi, je voudrais bien lui montrer une autre façon, que ça va l'avancer à rien du tout. Il pense que si. Si la paix de Dieu est mon but, je trouverai une façon de transformer ma façon de voir l'autre. Si défendre mes intérêts est mon but, je vais probablement continuer à considérer l'autre comme mon ennemi, continuer à me battre contre lui, mais avec hargne, avec agressivité. Si à un certain moment, on joue le jeu, mais on ne veut pas se perdre dans le jeu. Kenneth Wapnick a été impliqué dans un jeu assez terrible. Il y avait une lutte pour le droit d'auteur du cours. C'est une longue histoire. Mais pendant longtemps, la fondation de Kenneth Wapnick était le déteneur du droit d'auteur du cours. Ça semblait extrêmement logique. C'était logique. Sauf il y a quelqu'un, certaines personnes qui commençaient à citer le cours de plus en plus dans ses écrits. Parce que son but était transformer le message du cours. Donc, la fondation a été très, très souple par rapport à l'utilisation du cours dans les œuvres secondaires. Mais il dépassait largement ce cadre-là. Il voulait réécrire le cours. Et donc, la fondation de Kennedy a dit, stop, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, il a porté la fondation en procès. Et il a gagné dans un premier temps. Oui, c'est invraisemblable. Il est invraisemblable. Mais bon, Kennedy, comme tout le monde, est extrêmement surpris. Ça n'arrive quasiment jamais qu'on brise un droit d'auteur et qu'on casse un droit d'auteur. Donc, il a fait appel. Il a gagné en appel. L'appel était aussi retourné. Oui. Et Kennedy, qu'est-ce qu'il faisait tout ce temps-là? Il défendait ses intérêts, mais sans aucune hargne. Il faisait sa vie tranquille d'enfant et de fils de Dieu pour considérer tous les autres comme les enfants et les fils de Dieu pareil. Il a perdu le droit d'auteur sur le cours. Ce qui est une chose absolument remarquable, ça arrive une fois tous les 50 ans. Ouais. Voilà. Il était impliqué lui-même dans une bataille. Et il était un absolument exemplaire de quelqu'un. Presque, on dirait, il s'en fichait. Mais il s'en fichait pas, bien sûr. Mais les étudiants autour de lui étaient complètement enragés, complètement dans tous leurs états. Et lui, complètement tranquille et stoïque. par rapport à cela. C'était juste une scène qui traversait. Si c'est ce qui est censé si se produire ici, si l'enfant de Dieu, incarné par telle ou telle personne, voulait absolument avoir le droit d'auteur, si les juges allaient lui donner raison, parce qu'il y avait des juges, c'était assez clair, n'aimaient pas l'œuvre Un court miracle, ne pensaient, n'avaient aucun respect pour cette œuvre, ne considéraient pas que c'était une œuvre respectable. C'était apparemment dans ses propos. Donc, si c'était le cas, bon, c'est le cas. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, oui, c'est nos ennemis, mais ne nous perdons pas trop défendons nos intérêts, mais ne nous perdons pas trop dans le jeu ici. Sachant que la seule chose que nous emportons avec nous est la paix et l'amour de Dieu dans nos cœurs, que nous devons impérativement apprendre à partager avec chacun, chaque personne, sans exclusion. Ce qui veut dire pour nous, plus particulièrement avec les personnes auxquelles nous avons le plus de mal, avec lesquelles nous avons le plus de mal à le partager. C'est ces personnes-là qui vont nous sauver, qui vont nous faire vraiment, vraiment avancer. Donc on peut considérer que c'est une chance de pouvoir apprendre à aller au-delà de nos rancœurs dans des situations vraiment, vraiment compliquées. Ça explose notre cercle de compassion et d'amour et d'unité quand nous arrivons à voir qu'on ne veut pas que ces personnes-là, l'âme de ces personnes, pas la personnalité, mais l'âme de ces personnes, soit exclue de notre cercle d'unité. On ne veut que ces personnes soient exclues pour pouvoir être inclus moi-même. Kenneth nous disait toujours, si nous excluons une seule autre personne, c'est parce que nous voulons nous exclure de ce cercle. Parce que nous savons bien que nous ne pouvons pas être dans le cercle d'amour de Dieu si nous excluons une seule autre personne. Et du fait de ne pas nous fondre dans cet amour de Dieu qui est tout inclusif, qui ne voit plus de différence entre une personne et une autre, nous allons continuer à avoir des regrets, des rancœurs par rapport à une autre personne pour nous garder à l'extérieur. Vu comme ça, comprenons cela, on voit vraiment l'intérêt et l'importance d'inclure autant de personnes que nous pouvons et d'arrêter d'exclure. Donc l'âme de la personne, jamais la personnalité, l'ego de la personne qui ne compte pour rien. Voilà, où on est à l'heure? Pile poil.
Juste un petit détail.
Oui,
Je
Monique.
pensais que c'était Hélène et son collègue, les auteurs.
Oui, Hélène, ah oui, tout à fait, mais Hélène était une fois. Hélène s'en fichait un peu, en fait. Elle ne voulait pas avoir affaire avec cela. Les droits d'auteur, elle a donné tout de suite à une fondation qui s'appelle la Foundation for Inner Peace. La Foundation for Inner Peace l'a donné à la fondation de Ken. Par la suite, c'est la fondation de Inner Peace qui l'a regagné. Mais Alain voulait que ça soit toujours entre les mains d'une fondation dont le travail exprès était la protection de droits d'auteur.
D'accord, ok, merci.
Ça va, Monique?
Très bien.
OK. Très bien. Chers amis, merci beaucoup d'être restés jusqu'à tard, jusqu'à maintenant. Ces séances, j'avoue que je reconnais aussi, peut-être vous le sentez aussi, sont un peu plus intenses. J'essaie de trouver mes pieds dans cette nouvelle façon d'enseigner, dans ce nouveau programme. Donc, merci beaucoup pour votre patience. J'essaie de adapter les modules. Il y a plein de choses que je ne peux pas faire. Ça a été un peu compliqué de notre côté à organiser ces séances. J'espère de votre côté, vous ressentez quand même des bienfaits de faire cela. C'est moins évident que ce que j'ai pensé d'animer ces séances pour que ça soit intéressant pour vous et qui donne aussi quand même une matière pour les personnes qui regardent, vous les expérimentez. Et qui donne une matière aussi pour les personnes qui regardent, qui font les exercices pour la première fois. C'est vraiment un acte de jonglage pour l'instant. Donc, si vous avez des retours
Super Bernard,
à
c'est
faire.
génial, c'est génial, c'est super.
Merci Christine. Donc, OK, merci. On va voir. C'est le troisième cours vraiment sur les cours. Donc, on va voir. Ok, parfait, parfait. Merci mes amis, merci beaucoup. Au
Merci.
plaisir de vous voir la semaine prochaine, si vous êtes libre, si vous avez envie de participer. Je vais essayer de faire un peu plus d'exercices et de méditation, mais j'avoue que presque chaque minute est comptée maintenant si on veut faire plusieurs choses. Donc, merci encore.
Merci.
Au plaisir de vous revoir. Partageons nos salutations pour la semaine avec les autres. Faisons sur le décompte de 5. 5,
Bye
4,
bye.
merci beaucoup encore,
2,
c'était top.
merci,
Merci.
merci, merci, merci beaucoup. Au
Très bonne
revoir.
semaine, très bonne semaine,
Bonne
merci
semaine.
encore.
Merci.
Au
Oui,
revoir.
très bonne semaine.
Merci.